Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. François Fillon perd le soutien des jupéistes. Les défections se sont accélérées ces dernières heures, mais le candidat de la droite préfère afficher sa détermination. Il était en meeting ce soir à Nîmes. Nous l'écouterons dans un instant. Le camp Fillon qui appelle à un rassemblement de soutien dimanche au Trocadéro à Paris. François Hollande refuse que la manifestation tourne au défilé anti-juge. Nous entendrons la mise en garde du chef de l'État. Le programme d'Emmanuel Macron, enfin dévoilé ce matin, moderniser l'économie et moraliser la vie publique. Voilà quelques-uns des objectifs du candidat En Marche, le reportage de Sophie Delpont. Invité de ce journal, Jean-Richard Sulzer, conseiller économique de Marine Le Pen. La candidate du Front National présentait ce soir son programme économique fondé sur la sortie de l'Union européenne. Les choses semblent claires ce soir. Les partisans d'Alain Juppé ont décidé de lâcher François Fillon, qui pourrait être mis en examen le 15 mars prochain dans l'affaire des emplois fictifs présumés. Parmi les défections du jour, il y a Gilles Boyer, conseiller du maire de Bordeaux, qui avait accepté d'être le trésorier de la campagne Fillon. Il y a aussi trois importants parlementaires proches de Juppé, Benoît Apparu, Édouard Philippe et Christophe Béchu. Quant au député sarkozyste Georges Fenech, le premier à avoir lancé la fronde contre Fillon au sein des Républicains, il lance un appel solennel à parrainer Alain Juppé pour la présidentielle. On peut enfin citer l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui accuse François Fillon, je cite, d'emporter son camp dans une course vers l'abîme. Voilà donc le candidat de la droite obligé de poursuivre sa campagne avec son carré de fidèles. Et ce soir, en meeting à Nîmes, François Fillon a choisi de jouer le peuple contre les élus.
Fillon, il est seul, disent-ils à Paris. Fillon, il est avec le peuple de France à Nîmes. Mes amis, vous avez devant vous un combattant. Merci à Nîmes, la ville des arènes, la ville des Huguenots, des Camisards, la ville de toutes les résistances, de toutes les libertés, la ville fière de son identité. Sachez-le, je suis là pour percuter tous les scénarios que certains voudraient écrire à votre place. On m'attaque depuis des semaines avec une violence sans commune mesure, avec les faits qui me sont reprochés et sur lesquels j'ai répondu point par point. Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. Il est hors de question que soit muselée la voix de millions de Français qui veulent une véritable alternance.
Voilà François Fillon en meeting ce soir à Nîmes après un déplacement dans le vignoble gardois. Au même moment, à Paris, la police perquisitionnait le domicile des époux Fillon dans le cadre de l'information judiciaire ouverte la semaine dernière. La riposte du camp Fillon passe aussi par cette manifestation de soutien prévue dimanche prochain au Trocadéro à Paris. L'hebdomadaire Valeurs Actuelles évoquait hier un rassemblement contre le coup d'état des juges. Les proches de François Fillon récusent ce mot d'ordre, mais à gauche, on dénonce déjà une attaque insupportable contre la justice. François Hollande a même jugé utile d'adresser une sévère mise en garde à François Fillon.
Il y a un débat électoral, il doit se poursuivre pour l'élection présidentielle. Mais il n'autorise pas tout. Il ne peut pas y avoir de manifestation dans notre pays, dans notre République, qui puisse mettre en cause les institutions, la justice ou le travail de la police dans le cadre des enquêtes dont elle a la charge. Je déplore profondément qu'il puisse y avoir cette mise en cause et cette interpellation par la rue de ce que sont nos règles de droit. Donc j'appelle maintenant à la responsabilité. Ce n'est plus acceptable. Donc maintenant, il faut que ces candidats ou ce candidat, en l'occurrence, puisqu'il y a eu un appel direct à une manifestation, prenne sa responsabilité. Il est temps.
Le président de la République notait enfin que l'organisation de ce rassemblement du Trocadéro a été confiée à la Manif pour tous et à son émanation politique Sens commun. Ce choix fait polémique au sein des Républicains. Il fait partie des raisons qui expliquent les défections massives chez les jupéistes notamment. François Fillon, toujours distancé dans les sondages par Emmanuel Macron, donné deuxième derrière Marine Le Pen, le candidat En Marche qui a enfin présenté son programme ce matin. C'était au pavillon Gabriel à Paris, à deux pas de l'Élysée. Alors Sophie Delpont, vous avez assisté à cette présentation. Comment est apparu Emmanuel Macron, qui est désormais le nouveau favori de la présidentielle ?
confiant, optimiste face à ceux qui parlent de guerre civile, très assuré même quand il déclare que François Bayrou n'a pas réclamé l'introduction de la proportionnelle, ce qui faisait pourtant partie de ses quatre conditions d'alliance. Emmanuel Macron s'est prêté à un jeu de questions-réponses pendant plus d'une heure avec les journalistes, assumant un programme social-libéral avec notamment la suppression des allocations pour des chômeurs qui refuseraient un emploi à deux reprises, tout en proposant une assurance chômage universelle pour tous les actifs. Prenant sa revanche face aux critiques qu'il accusait d'être l'homme sans programme, il s'est placé comme un rempart face au Front National. Puis, comme François Fillon, il accuse la presse de faire le jeu du FN en répondant à un journaliste.
Aussi longtemps que la presse qui prétend le combattre utilisera, propagera, fera sienne les arguments du Front National, elle aidera en effet ce débat. C'est-à-dire aussi longtemps que vous passerez plus d'énergie à expliquer que je suis le candidat de l'oligarchie financière, que je suis un ancien banquier uniquement et rien d'autre, et que je ne vaux pas mieux que 4 années de ma vie professionnelle à vos yeux, parce que moi j'en suis très fier de ces années, eh bien en effet vous continuerez à faire le lit du Front National, cher ami.
Arnaud Montebourg accuse Emmanuel Macron d'avoir présenté un programme de l'UMPS, empruntant cette formule célèbre de Marine Le Pen. La présidente du FN, elle qualifie ce programme de menace majeure pour la France, et dans un communiqué, le parti communiste soutient que François Fillon découvre qu'il a un frère jumeau dont le programme partage exactement le même logiciel néolibéral.
Sophie Delpont, merci. Venons-en maintenant au Front National qui présentait ce soir son programme économique pour la présidentielle. Mais tout comme François Fillon, Marine Le Pen doit composer avec les affaires judiciaires et la menace semble se rapprocher puisque le Parlement européen a voté ce matin la levée de l'immunité parlementaire de la députée européenne. Alors il ne s'agit pas de l'affaire des assistants parlementaires des eurodéputés FN, non, il s'agit des images d'exaction de l'État islamique que Marine Le Pen avait relayé sur son compte Twitter. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour diffusion d'images violentes. Invité de ce journal, Jean-Richard Sulzer, conseiller économique de la candidate frontiste, conseiller régional dans les Hauts-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Richard Sulzer, une réaction tout d'abord à la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen.
Écoutez, tout ça sent un petit peu le coup monté, parce que Marine Le Pen et Gilles Bercollard avaient fait des tweets jumeaux. Il y avait un animateur télévisé avait comparé le Front National à Daesh. Ils ont dit ne vous trompez pas, Daesh c'est ça. Ils avaient montré le cadavre d'un homme qui avait la tête coupée, qui avait été décapité.
Voilà. Le cadavre d'un otage américain, James Foley.
Je ne sais pas qui c'était, mais enfin, ils ne sont pas poursuivis, ils n'ont pas été inquiétés. Pour avoir montré James Foley, ils ont été inquiétés parce qu'ils ont montré l'image d'un cadavre. Et donc, M. Cazeneuve, en tant que ministre de l'Intérieur, a immédiatement saisi une plateforme de surveillance pour des poursuites éventuelles. Alors, ce qui est quand même assez ahurissant, c'est que Gilles Bercollard ne sera pas poursuivi. Il y a eu une commission ad hoc à l'Assemblée nationale qui a émis un avis défavorable à la levée de son immunité. Et le bureau de l'Assemblée a siégé il y a 8 jours, et il a lui aussi refusé la levée de l'immunité parlementaire, ce qui est d'ailleurs assez rare, en estimant que cette plainte était mal fondée et irrecevable d'ailleurs. Il y avait un vice de forme. Et 8 jours après, le Parlement européen, lui, la commission ad hoc, émet un avis favorable à la levée de l'immunité de Mme Le Pen pour les mêmes faits. Donc, c'est vraiment deux poids, deux mesures. Et puis, vraiment être mis en examen pour avoir montré des images qui circulent partout sur le net, ça paraît un petit peu exagéré.
Jean-Richard Sulzer, venons-en maintenant au programme économique de la candidate Marine Le Pen. Combien coûtera ce programme ?
Alors, pour l'année pleine 2018, il va coûter en dépenses supplémentaires 68 milliards d'euros. Et d'autre part, il y aura 25,4 milliards de baisses d'impôts sur les sociétés, sur l'impôt sur le revenu, les donations, la défiscalisation des heures supplémentaires. Il y aura donc une perte de recettes de 25,4 milliards d'euros pour le secteur public tout entier, y compris les collectivités locales. Donc, il y aura un coût de 94,15 milliards d'euros.
Comment vous financez ce coût d'environ 94 milliards d'euros ?
Les économies qu'on peut réaliser, la première année, je parle, sont de 81 milliards d'économies. La rationalisation de la santé, en particulier un certain gaspillage sur les recettes médicales, une meilleure exploitation des outils digitaux, 7 milliards. L'incitation aux médicaments génériques, 5 milliards. La vente à l'unité pour des produits qui en général sont à prise unique, 2 milliards. La rationalisation du réseau des administrations et la réforme institutionnelle qui consiste à supprimer le millefeuille territorial, comme on dit, 10 milliards. L'évasion fiscale des multinationales et le redressement des entreprises qui ne payent pas les bénéfices qu'elles effectuent en France, 15 milliards. La fraude sociale, 8 milliards. L'Union européenne, 8 milliards. L'immigration, 15 milliards. Coût net, hein, parce que l'immigration, les gens produisent et payent des impôts, mais ils coûtent également. La délinquance, 5 milliards. La surtaxe sur les profits détournés, 5 milliards. Une taxe sur l'embauche des travailleurs étrangers, 1 milliard.
Jean-Richard Sulzer, comment vous arrivez à faire des économies sur la délinquance ?
Des économies sur la délinquance.
Vous me parliez de 5 milliards d'euros.
Ben, il s'agit, écoutez, à partir du moment où on investit massivement, mais ça, ce sont les dépenses supplémentaires, dans la justice, dans l'embauche de magistrats, de policiers, 40 000 places de prison supplémentaires, enfin, ça rentre dans le coût, il va de soi que nous aurons une politique vis-à-vis de la délinquance qui sera beaucoup plus rigoureuse. Et par conséquent, nous allons avoir une politique plus dissuasive vis-à-vis des délinquants. Pour le moment, vous le savez, enfin, en dessous de 3 ans de prison, on ne les fait pas pour les primo-délinquants parce qu'il n'y a plus de place.
Sauf qu'il va falloir investir dans la justice, dans les places de prison. Donc ça va avoir un coût.
Ça rentre dans les dépenses supplémentaires. Donc de 68,75 milliards d'euros, l'augmentation du nombre des magistrats, 5 000 magistrats et leurs moyens, 0,8 milliards. 15 000 policiers en coût annuel, policiers gendarmes, 6 000 douaniers, 1,4 milliard. 4 000 places de prison, 2,3 milliards. Et puis alors le reste, ce sont des dépenses supplémentaires qui ne sont pas relatives à la justice ou à la pénitentiaire.
Jean-Richard Sulzer, la sortie de l'Union européenne que vous préconisez va tout de même coûter de l'argent puisque la France va perdre des aides européennes.
Alors, vous le savez, la France verse au budget européen une contribution nette de 8 milliards. Nous étions comme les Britanniques avant que Mme Thatcher ne réagisse. Nous payons à l'Europe plus qu'elle ne nous donne, parce que tout simplement, la politique agricole commune est en train de s'évaporer au profit de fonds structurels qui vont vers les pays européens les moins développés.
Jean-Richard Sulzer, conseiller économique de Marine Le Pen, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. En Égypte, la Cour de cassation a définitivement acquitté Hosni Moubarak à l'issue d'un procès qui aura duré 6 ans. L'ancien président égyptien était accusé d'avoir orchestré la violente répression lors de la révolution de 2011 qui avait fait plus de 800 morts. Il était aussi le premier dirigeant à être jugé après la vague de soulèvement qui a secoué le monde arabe il y a 6 ans. Au Caire, les explications de François Umferkataji.
En novembre 2012, Moubarak avait été condamné en première instance à la prison à vie. Mais après le coup d'état de l'ex-chef des armées Abdel Fattah al-Sissi, un nouveau procès a été ordonné, jetant le doute sur le caractère politique et l'indépendance de la justice. En novembre 2014, lorsque Moubarak avait été blanchi une première fois par une cour de justice criminelle, de nombreux journaux égyptiens avaient titré « Si ce n'est pas l'appareil d'État, alors qui a tué les manifestants ?» Eh bien pour cette dernière audience, les juges ont accusé pêle-mêle les frères musulmans, le Hamas et même le Hezbollah d'avoir orchestré les violences, des mensonges pour mieux discréditer l'État égyptien. 846 manifestants ont été tués entre le 28 et le 11 février 2011 pendant les 18 jours de la révolution. Mais une question se pose maintenant pour les militaires égyptiens à la tête du pays. Âgé de 88 ans, Moubarak a déjà purgé une peine de 3 ans de prison pour corruption. Il devrait donc être libéré de l'hôpital militaire dans lequel il est retenu au Caire. Mais voilà, il n'en est rien. Plusieurs hypothèses donc. Les généraux n'ont certainement pas envie de l'entendre parler à la presse, d'entendre Moubarak expliquer qu'ils avaient tout faux en le poussant vers la sortie. Il y a aussi un risque de mouvement populaire. Les militaires égyptiens font tout pour tenter d'effacer le souvenir révolutionnaire de l'esprit des Égyptiens. Une libération de Moubarak pourrait donc l'éveiller. Aujourd'hui, aucun monument au Caire n'a été élevé pour se souvenir de ces manifestants tués sous le feu de la police. Bref, le pouvoir égyptien attend une chose, la mort de l'ancien raïs pour tourner définitivement la page de la révolution. révolution du Nil.
François Umfer Katadji, correspondant en Égypte. En Syrie, le régime Assad est parvenu aujourd'hui à reprendre Palmyre à l'État islamique. La cité antique a changé de main plusieurs fois depuis l'an dernier. Les djihadistes ont de nouveau été chassés de la ville grâce au soutien aérien de la Russie. Un mot de la météo demain, un temps perturbé à l'ouest avec un net renforcement du vent sur le sud-est. Ailleurs, les nuages laisseront souvent percer de belles éclaircies. Les températures maximales demain après-midi, 12 à 18 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 19 à 22 degrés dans le sud-ouest. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.